12h30, 13h, Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, 4 morts après l'explosion rue de Trévise à Paris. Une quatrième victime a été retrouvée ce matin par les pompiers sous les décombres. 150 habitants ont été évacués depuis hier dans l'attente de la consolidation de leur immeuble. Place au grand débat national. Emmanuel Macron va publier sa lettre aux Français demain. Un grand débat après lequel rien ne sera plus pareil. Déclaration ce matin du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi sur Europe 1. Un débat qui est une foutaise intégrale. Commentaire de Nicolas Dupont-Aignan, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos. Mobilisation en hausse hier pour l'acte 9 des Gilets jaunes. Moins de tension, mais au prix d'un dispositif de sécurité maximale. On en parlera avec mon invité Stanislas Godon du syndicat Alliance. L'arrestation en Bolivie de l'ancien militant d'extrême gauche César Battisti. Le journal des sports avec un match à haut risque aujourd'hui. OM Monaco en Ligue 1. Et puis la météo, pas de changement au programme, nous dira Laurent Cabrol. Toujours de la grisaille et même de la neige en montagne.
Europe 1.
Le bilan s'est donc alourdi ce matin au lendemain de l'explosion de la rue de Trévise à Paris. Il est désormais de 4 morts. Une quatrième victime vient d'être retrouvée sous les décombres, Romain Oquet.
Oui, les recherches s'étaient accélérées au lever du jour. Les pompiers ont déblayé les décombres à la main, aidés par des chiens, ce qui a permis de retrouver le corps de cette quatrième victime. À quelques rues d'ici, une cellule psychologique a été mise en place pour les personnes évacuées. Elles arrivent sans rien, certaines avec juste leurs animaux de compagnie. Sur les visages, on comprend que la nuit a été difficile, éprouvante. Eric n'a pas pu accéder à son logement depuis hier, mais il essaye déjà de penser à la suite.
La première chose, c'est prévoir l'avenir, donc aller acheter des vêtements pour le quotidien et puis se dire qu'il va falloir aller travailler lundi de toute façon, donc il faut quand même pouvoir continuer à vivre normalement. Donc quand est-ce qu'on peut être logé? Est-ce qu'il faut trouver un autre appartement, acheter un autre appartement? Enfin, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'ils vont démolir l'immeuble? J'en sais rien.
Un large périmètre de sécurité entoure encore la zone de l'explosion. Derrière les barrières, beaucoup de curieux, mais aussi des commerçants qui viennent constater les dégâts. Philippe découvre sa vitrine en miettes.
Il faut trouver une entreprise au moins pour sécuriser la vitrine. Un dimanche, c'est pas simple. Donc voilà, là on passe des coups de fil, on regarde, et puis il faut déblayer parce qu'on ne peut pas faire travailler des gens dans le... Enfin, vous voyez ce qu'il y a autour de moi, donc c'est un peu compliqué.
L'enjeu est désormais de consolider les bâtiments fragilisés par l'explosion grâce aux charpentiers de la mairie de Paris. Mais difficile d'estimer encore la durée de l'intervention, probablement jusqu'à la fin de semaine prochaine.
Romain Oquet en direct du quartier des Folies Bergères à Paris pour Europe 1. Alors que je vous le disais, le bilan s'est donc alourdi ce matin. Après cette explosion, 4 morts, 2 pompiers, une touriste espagnole et une dernière personne qui a donc été retrouvée sous les décombres ce matin.
Europe 1, 12h33.
C'est donc demain qu'Emmanuel Macron doit rendre publique la lettre qu'il va adresser aux Français pour préciser les contours du grand débat national. Débat qui sera donc lancé mardi. Et pour le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, cette grande consultation doit être l'occasion de renouveler le débat politique.
Il y a depuis plusieurs décennies en France une humiliation ressentie par de très nombreux Français qui s'est nourrie chaque année de discours parfois incompréhensibles, de mesures ressenties violentes arrivant du haut. Rien ne sera pareil après ce grand débat. Il faut que ce grand débat il nous oblige à changer la façon de faire de la politique en France, à changer la façon avec laquelle notre démocratie fonctionne. Pas à dire aux Gilets jaunes ce qu'ils doivent
faire. Non, bien sûr.
Par contre, je leur dis, maintenant, il faut transformer ces revendications en réalité. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc je leur dis, si vous voulez continuer à faire pression sur nous, continuez à vous mobiliser par le dialogue, montrez que vous êtes très nombreux, créez des grosses associations à travers la France, soyez les associations les plus influentes localement partout où vous êtes. Et si vous avez envie de vous présenter, allez-y.
Mounir Majoubi qui s'adresse donc aux Gilets jaunes, c'était ce matin sur Europe 1 au micro de Bernard Poirette. Un débat dont Nicolas Dupont-Aignan, lui en revanche, n'attend pas grand-chose. Le président de Debout la France s'exprimait sur Europe 1 ce matin.
Ce qui est insupportable, c'est cette arrogance où on a l'impression qu'Emmanuel Macron, là, la fameuse galette, considérait son peuple comme des enfants gâtés. Mais les Français vivent durement. Eux ont leur pouvoir d'achat réduit et demandent de la justice. Le grand débat, c'est de la foutaise intégrale. Il n'y a pas un Français qui croit à cette comédie. Et je dis simplement qu'un peuple qui est humilié, martyrisé, brutalisé, eh bien, à un moment, ça finit mal.
Nicolas Dupont-Aignan, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Mobilisation en hausse hier pour l'acte 9 des Gilets jaunes. 84 000 manifestants contre 50 000 samedi dernier. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Ces manifestations répétées depuis le mois de novembre ont détourné de nombreux clients des magasins. Beaucoup de commerces espèrent que les soldes qui ont débuté cette semaine seront l'occasion de rattraper ce manque à gagner. C'est pour cela que dans le Rhône, de nombreux magasins seront ouverts aujourd'hui. Autorisation exceptionnelle accordée par la préfecture, une mesure appréciée dans les boutiques du centre-ville de Lyon, comme a pu le constater notre correspondant Rémi Pierre.
Les vitres de son magasin de prêt-à-porter féminin donnent directement sur la place Bellecour, le point central des manifestations depuis le 17 novembre. Alors Sandra Crozy le reconnaît, décembre a été compliqué.
Surtout sur un samedi où j'ai été obligée de fermer à 17h30. Vu le gaz qui passait sous les portes et tout, j'ai été obligée de fermer. Donc c'est sûr qu'il y a une perte au mois de décembre assez importante.
Pour se rattraper un peu, son magasin est donc ouvert aujourd'hui, mais pas dimanche prochain. Dans la boutique voisine, Pierre Ollier compte bien lui profiter de toutes ses autorisations dominicales. Il le reconnaît, ce sont les dimanches qui ont sauvé son mois de décembre.
Finalement, bon, on s'en est bien sorti, mais c'est vraiment grâce au dimanche, parce qu'en fait, une bonne partie de la clientèle du samedi a basculé le dimanche. Et on va en faire un, voire deux, c'est certain.
En face, le magasin de jouets de Catherine Chanov reste, lui, fermé, malgré des ventes en baisse de 5% en décembre.
Mon personnel a énormément d'heures supplémentaires à récupérer suite à la période des fêtes, donc je ne vais pas pouvoir assumer un surcoût aussi important. Et puis d'autre part, je reste dans le choix du dimanche qui respecte le temps aux familles et non pas le temps des achats.
Mais bien plus que d'ouvrir le dimanche, les commerçants de la presqu'île rêvent d'une chose, un samedi sans manifestants. À Lyon, Rémi Pierre, Europe 1.
Et dans quelques minutes, on reviendra sur l'acte 9 des Gilets jaunes avec mon invité Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. À suivre, c'est cet après-midi à 15h à la Mutualité que Marine Le Pen va lancer la campagne du Rassemblement National pour les Européennes.
12h39, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et le coup d'envoi cet après-midi à Paris à la Mutualité de la campagne pour les Européennes du Rassemblement National. Dans les sondages, c'est le parti de Marine Le Pen qui fait la course en tête et la patronne du RN va dévoiler lors de cette convention les premiers noms de sa liste, Adrien Beck.
Oui, 12 noms précisément, un équilibre entre sortants, nouveaux visages ralliés. Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, devrait figurer en troisième position. L'ancien député UMP Jean-Paul Garot fera lui aussi partie des noms, des ralliements de poids, mais pas très surprenant car on connaît depuis longtemps les positions très droitières des deux hommes qui d'ailleurs n'avaient plus de mandat. Marine Le Pen mise aussi sur la jeunesse, tête de liste Jordan Bardella, 23 ans, dont 7 déjà passés dans le parti. Numéro 2, Hélène Laporte, une inconnue d'à peine 40 ans. Europe 1 vous révélait sa place cette semaine. Et au RN, on se félicite donc d'une liste sérieuse. Mais maintenant qu'on connaît les noms, reste à préciser le fond. Marine Le Pen qui évoque son projet d'Europe des Nations. Alors concrètement, comment y arriver? Avec quels alliés au Parlement européen? Autre inconnue, elle est française. Le risque gilet jaune, si une liste solide voit le jour, le RN aura l'air trop tendre, observe un bon connaisseur de l'extrême droite, avec le risque de grappiller quelques précieux points à la liste de Marine Le Pen.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. À l'étranger, l'information de la nuit, c'est l'ancien militant d'extrême gauche, Cesare Battisti, arrêté en Bolivie. Cela faisait un mois qu'il était en cavale. Depuis 15 ans, il était exilé au Brésil, qui avait annoncé son intention de le renvoyer en Italie, où il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour meurtre et complicité de meurtre. Des faits qui remontent aux années 70. Et Mathieu Bock, ce sont des policiers boliviens, mais aussi italiens qui l'ont arrêté.
Oui, Cesare Battisti portait une fausse barbe et une fausse moustache lorsque les policiers l'ont arrêté en pleine rue sans qu'il ne pose de résistance. L'homme de 64 ans détenait sur lui un passeport brésilien à son propre nom. Cette opération était préparée depuis un petit moment déjà. Un avion italien était posté à Sao Paulo depuis le mois de décembre, affirme la presse italienne. Et c'est sûrement cet avion rempli de policiers et de membres des services secrets qui est en route vers la Bolivie actuellement. Le but, extrader l'ancien fugitif, probablement vers le Brésil dans un premier temps, puis vers l'Italie. Cesare Battisti avait fui le Brésil en décembre dernier après la signature que l'Italie réclamait depuis longtemps de l'acte d'extradition par l'ancien président Michel Temer. Le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avait confirmé vouloir remettre le fugitif à son pays d'origine. En Italie, Cesare Battisti est considéré comme un terroriste. Il est accusé d'avoir participé à 4 meurtres dans les années 70 lorsqu'il appartenait à un groupe communiste. L'homme avait quitté son pays et avait trouvé refuge pendant 15 ans en France dans un premier temps, avant de s'envoler vers le Brésil où sa cavale, là aussi, a duré 15 ans et vient donc de prendre fin cette nuit.
Mathieu Bock.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Du football pour commencer, suite et fin de la 20e journée de Ligue 1 aujourd'hui.
Et au programme, Nantes reçoit Rennes à 15h et puis à 17h, deux affiches, Toulouse, Strasbourg et Dijon-Montpellier. Mais le match à suivre aujourd'hui, hein, qui sera à suivre d'ailleurs dans Europe 1 Sport, c'est bien sûr Marseille-Monaco, deux équipes de haut mur. Les Monégasques avant-derniers du classement, les Marseillais qui sont mieux classés mais qui ont enchaîné les contre-performances et qui ont également besoin de victoires, notamment parce que les supporters sont très mécontents. Alors dans le vestiaire marseillais, on a beaucoup parlé toute cette semaine et on l'a mis les choses à plat, explique l'attaquant Florian Thauvin.
Aujourd'hui, on est allé à la base, on a pris le problème à la base et on s'est dit les choses tous ensemble. Et ce que j'ai apprécié de la part de tout le groupe, c'est que ce soit autant les plus jeunes que les plus anciens, tout le monde a été dans la capacité d'entendre ce qui lui était reproché. Une des choses qui m'a été reprochée, et c'est moi qui en ai fait part au groupe, ça a été à propos de mes replis défensifs. Je suis conscient que parfois, il faudrait que je me replace un peu plus vite dans notre ligne de 4 au milieu, de manière à aider l'équipe à avoir un bloc compact. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases et c'était important de le faire.
Florian Thauvin interrogé par Yann Théroux. Et puis hier, un Paris qui a gagné à Amiens, Saint-Etienne qui bat Guingamp et Nice qui s'est relancé en battant Bordeaux 1-0. Toujours en foot ce soir à partir de 20h. Ne pas manquer surtout l'interview exclusive de Didier Deschamps. Ce sera sur Europe 1, le sélectionneur de l'équipe de France championne du monde qui sera face aux auditeurs pour plus d'une heure d'échange.
Le rugby, suite de la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée des phases de ce groupe.
Avec des fortunes diverses pour les clubs français, le Racing a perdu hier mais reste leader de son groupe, bien placé pour la qualification. Montpellier gagne mais doit encore l'emporter le week-end prochain pour passer au tour suivant. Déception pour Toulouse, battu par le Leinster et qui perd sa place de leader de son groupe. Enfin, Toulon, qui n'avait plus grand espoir, s'est incliné 17-28 à domicile contre Édimbourg. Aujourd'hui, deux clubs français en lice, hein, Castres qui va à Exeter et Lyon qui reçoit les Saracens.
Le handball et les Bleus continuent sur leur lancée. Ils ont vraiment convaincu face à la Serbie.
Victoire 32-21. Les Bleus nettement plus précis que face au Brésil avant-hier. Et tout ça sous le regard de la star Nicolas Karabatic, le patron des Bleus qui était en tribune. Mais il est bien de retour après une longue blessure. Alors on ignore encore quand il pourra rejouer. Mais ses coéquipiers sont ravis de le retrouver. Même chose pour son entraîneur adjoint Guillaume Gilles.
C'est d'abord un plaisir de le revoir en forme et de le revoir avec, dans la capacité de jouer un rôle dans une compétition majeure alors qu'il sort d'une grave opération et d'une indisponibilité qui a été très longue. Et il réintègre l'équipe et c'est un plaisir et on va bien l'accueillir, lui permettre d'avoir aussi du temps pour reprendre la place qui est la sienne dans ce groupe-là et l'avenir nous dira comment on l'associe au reste de l'aventure.
Guillaume Gilles au micro de Christophe Lamarre.
Et pour terminer un mot de ski, la Coupe du monde de slalom.
Les Français qui sont bien placés après la première manche du slalom d'Adèle Bodden, Pinturo 4e, Clément Noël 5e, ils sont à un peu plus d'une demi-seconde du leader, l'Autrichien Marco Schwartz, la deuxième manche à 13h30.
Merci beaucoup Simon Rubin, il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Et pas de gros changements à attendre dans la journée, Laurent Cabrol.
Oui, probablement. Cet après-midi ressemblera au temps de ce matin, c'est-à-dire beaucoup de nuages sur la France, un temps très couvert avec de la pluie, de la neige sur les régions de l'Est. Il a beaucoup neigé cette nuit en montagne sur les Vosges, le Jura et sur les Alpes. Mais dans l'ensemble, c'est la pluie qui l'emporte pratiquement partout. Un brin de soleil sur la Bretagne cet après-midi et peut-être disons un peu moins de nuages sur le bassin méditerranéen où Mistral et Tramontane soufflent violemment. Les températures aujourd'hui sous abri vont s'échelonner cet après-midi entre 6 et 15 degrés. 6 à Mulhouse, 7 à Mende, 8 à Millau et Épinal, 9 à Nevers, 10 degrés à Lyon, 11 à Paris, 13 degrés du côté de Marseille et 15 à Nice. Nous verrons que demain, ça ira un petit peu mieux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. À suivre, on va revenir sur l'acte 9 des Gilets jaunes. Je vous le disais, Mobilisation en hausse, moins de tension, mais à quel prix? Dispositif de sécurité maximale avec 80 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain. On en parle avec mon invité Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance.
12h49, votre grand journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h sur Europe 1 avec Fabienne Lemoyle et son invité du dimanche.
L'acte 9 des Gilets jaunes s'est donc traduit hier par une mobilisation en hausse, 84 000 manifestants contre 50 000 samedi dernier, et surtout moins de tension alors que le week-end dernier, on s'en souvient, avait été marqué par deux images. Un ancien boxeur frappant un gendarme mobile à terre à Paris, il sera bientôt jugé pour violence volontaire. Et un commandant de police frappant un manifestant à Toulon. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, est en cours. Avec nous en studio, Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance. Bonjour.
Bonjour.
Les autorités redoutaient de nouvelles violences hier avec des éléments plus radicalisés parmi les manifestants. Quel a été le constat de vos collègues sur le terrain ?
Alors, le constat d'abord, c'est qu'on a assisté pour la plupart à des manifestations qui étaient déclarées avec une organisation, un service d'ordre qui était en lien notamment avec les forces de sécurité. Donc ce qui fait que ça a bien simplifié la tâche de nos collègues sur le terrain, même si on déplore encore une fois, au moment de la dispersion, des infiltrations de mouvements de jeunes, de moins jeunes, extrêmement radicalisés et qui voulaient surtout en découdre avec les forces de sécurité notamment.
Vous l'avez dit, pour la première fois, on a vu en tout cas à Paris un vrai service d'ordre du côté des Gilets jaunes. Ils s'appellent les Brassards Blancs pour encadrer les manifestants, visiblement avec beaucoup d'anciens militaires. C'est ça qui a vraiment changé la donne, d'avoir un interlocuteur enfin face à vous pour dialoguer ?
Ça a changé la philosophie évidemment de ces manifestations lors des parcours. C'est-à-dire que ce service d'ordre expliquait notamment aux Gilets jaunes qu'ils ne pouvaient pas aller à tel endroit. Et donc ça évitait effectivement ce à quoi on a pu assister ces dernières semaines, à des contacts, parce que peut-être certains ne comprenaient pas pourquoi il y avait des barrages, notamment de forces de sécurité à certains endroits.
Alors ça a été aussi au prix d'une très forte mobilisation des forces de l'ordre, 80 000 hommes et femmes sur le terrain. C'est ça aussi qui a permis d'éviter ces violences ?
Oui, tout à fait. Alors, dispositif d'exception. Alors, c'est vrai que nous, on préférait que nos collègues puissent bénéficier de temps en temps quand même de leur repos. Parce que je rappellerai une chose, c'est que pour pouvoir assurer ces manifestations, beaucoup de repos de nos collègues ont été supprimés afin qu'ils soient présents sur le terrain. Et je le rappelle, qu'ils assurent la sécurité des manifestants. Et ça a montré aussi une dernière chose quand même, si vous me permettez, hier. C'est que lorsque ça se passe bien, lorsqu'on ne provoque pas les forces de sécurité, lorsqu'on ne va pas au contact, les forces de sécurité ne ripostent pas. Elles ripostent seulement lorsqu'elles sont attaquées. Et ça, c'est important de le dire, parce que du coup, ça permet d'apaiser les situations notamment.
Alors, on le disait, moins de violence, même si je le souligne, plusieurs journalistes ont violemment été pris à partie, et je pense particulièrement à une équipe de LCI à Rouen. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça, le même scénario, week-end après week-end, avec vous, venez de le dire, vos collègues fatigués qui sont obligés d'être rappelés sur leur congé ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué. On en est à l'acte 9 et puis surtout n'oubliez pas une chose, c'est que depuis 4 ans, tous les policiers, les gendarmes sont mobilisés. Nous sommes encore en vigie pirate, la menace terroriste est toujours là. Ils doivent lutter aussi contre l'immigration et ils doivent assurer aussi la sécurité notamment de tous les Français, par exemple dans les gares, par exemple dans les aéroports, et ils doivent lutter aussi contre la délinquance au quotidien. C'est vous dire si la tâche est immense et elle se somme par quoi ? Par 23 millions d'heures supplémentaires au sein de la police nationale notamment.
Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, vendredi disait justement que ça détournait les policiers de leurs autres tâches en ce moment.
Ça les détournait. En fait, c'est surtout que pour assurer toutes les tâches, eh ben on supprime les repos et on fait des heures supplémentaires. C'est ça, en fait, le bilan notamment de ces manifestations, parce qu'il ne faut pas oublier, je le disais, tous les fronts sur lesquels sont engagés les collègues policiers et gendarmes. Et je voudrais quand même dire un petit mot pour nos collègues, deux collègues sapeurs-pompiers qui sont décédés dans cet événement dramatique. Évidemment, on pense aux victimes, mais on pense aussi à nos forces, je dirais, sapeurs-pompiers, qui eux aussi subissent parfois au quotidien, notamment des violences.
Je rappelais ces propos d'Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, vendredi, qui donnait aussi un autre chiffre. La police des polices saisit de 78 dossiers depuis le début du mouvement pour enquêter sur des signalements qui ont été faits au niveau d'action de la police.
Alors vous savez, souvent on entend certaines minorités faire le procès de la police. Vous savez, dans la police nationale, c'est simple. L'usage de la force, soit il est réglementaire, soit il ne l'est pas. Et quand il y a des signalements, il y a des enquêtes, il y a des conclusions. Et les policiers sont durement sanctionnés lorsqu'ils font une erreur ou une faute déontologique ou réglementaire. Il n'y a pas de sentiment d'impunité chez nous. Il n'y a pas de laxisme chez nous. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, s'il y avait autant de sévérité, notamment de la part de la justice vis-à-vis des délinquants qu'on interpelle, vis-à-vis des individus extrêmement radicalisés qui s'en prennent aux policiers, il y en aurait peut-être moins dans les manifestations d'ailleurs.
Vous considérez que par rapport à toutes les gardes à vue, les jugements qui ont eu lieu à Paris, les jugements n'ont pas été assez sévères ?
Le Premier ministre l'a rappelé lors de son intervention, 5000 gardés à vue, 1000 condamnations, déjà l'équation elle est un peu surprenante, et puis 153 mandats de dépôt. C'est un faible quand même chiffre, il faut quand même se rendre à l'évidence. Alors est-ce que le raisonnement c'est il n'y a pas de place en prison donc on ne condamne pas de la prison ferme ? En attendant, les individus que l'on laisse dehors, ce sont ceux qu'on retrouve à tous les actes, notamment des gilets jaunes, et surtout en fin de manifestation qui eux viennent avant tout pour casser du flic.
Stanislas Godon, je rappelle, du syndicat Alliance, il y a eu aussi cette cagnotte de soutien aux forces de l'ordre. Je crois qu'elle a franchi les 1 400 000 euros ce matin. Vous l'accueillez comment et qu'est-ce qu'il faut faire de ces fonds ?
Alors tout d'abord, il a été annoncé que les fonds seraient reversés à l'Amicale de la Police Nationale, qui est un comité d'entraide pour les agents du ministère de l'Intérieur.
Que vous connaissez bien.
Bien sûr, que nous connaissons bien. On est complètement transparent. Hein, nous avons un partenariat avec cette Amicale. Mais cette Amicale va gérer évidemment ce fonds de manière complètement indépendante. Et il faut le rappeler, cette cagnotte peut être intéressante notamment pour l'ensemble des collègues qui sont blessés. Je rappellerai juste une chose quand même. C'est qu'à l'heure actuelle, un policier, lorsqu'il est victime d'infraction, il n'est pas éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Ce qui fait que, par exemple, notre collègue Yann Seyour, du 93, qui avait été gravement blessé en octobre 2015, qui avait pris juste, je le rappelle, 2 balles dans la tête, n'a pas fait l'objet d'indemnisation parce que, pour l'instant, on se refuse à aider notamment les policiers blessés.
Est-ce que ce n'est pas au gouvernement ou à l'État de répondre à cette demande plutôt qu'à une cagnotte ?
Bien sûr que c'est au gouvernement, c'est au ministère de l'Intérieur de répondre à cette attente, notamment des policiers. Mais en attendant, si on peut aider les policiers, il ne faut quand même pas se priver de cette aide qui peut être conséquente. Et je rappellerai aussi une chose, c'est que lorsque, par exemple, les policiers sont menacés et qu'ils doivent déménager, là aussi, les structures, parfois, la lourdeur administrative fait que ça peut prendre du temps. Et l'Amicale, elle peut aider aussi, d'ailleurs, les policiers, de quelque bord qu'ils soient.
Merci beaucoup Stanislas Godon, je rappelle secrétaire national du syndicat Alliance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi en studio. À 13h, vous ouvrez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Sophie qui va dresser aujourd'hui le portrait très intéressant de certaines nouvelles élues au Congrès américain. Et vous verrez que ce ne sont pas vraiment les amis de Donald Trump.
Et dans un instant Fabienne, le rappel des titres de l'info. L'essentiel de l'info, Fabienne Lemoelle.
Le bilan s'est alourdi après l'explosion rue de Trévise à Paris. 4 morts, une 4e victime a été retrouvée ce matin par les pompiers sous les décombres. 150 habitants ont été évacués depuis hier dans l'attente de la consolidation de leur immeuble. L'acte 9 des Gilets jaunes avec une mobilisation en hausse. Hier, 84 000 manifestants contre 50 000 samedi dernier. Une mobilisation à la veille de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron sur le grand débat national. Un débat qui doit obliger le gouvernement car rien ne sera plus pareil après lui. Déclaration ce matin du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Commentaire plus sévère sur Europe 1 de Nicolas Dupont-Aignan qui juge que ce grand débat c'est de la foutaise intégrale. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos. L'arrestation en Bolivie cette nuit de l'ancien militant d'extrême gauche Cesare Battisti sous le coup d'une condamnation à perpétuité en Italie pour des meurtres qui remontent aux années 70. Arrestation opérée par des policiers boliviens mais aussi italiens. Enfin, le sport avec la nouvelle victoire des handballeurs français face à la Serbie 32-21. C'était hier soir au championnat du monde à Berlin.
Merci Fabienne Lemoelle.